Merci les musiciens, vraiment, c'est magnifique. Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse aussi ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. On a déjà prié et chanté. Et voilà, maintenant nous allons passer à consistance, la parole de Dieu. Nous sommes là pour louer le Seigneur surtout, mais aussi pour écouter le conseil du Seigneur ce matin. Et je voudrais vous dire que hier après-midi, j'étais dans mon bureau. J'avais ouvert la fenêtre parce qu'il faisait très chaud, ça commence à faire vraiment chaud hein, ici. Et je regardais le beau travail que Stéphane a fait de la mise en page des prédications depuis 2000, je sais plus combien, 2005. C'est une idée de toi Marc, c'est toi qui avais dit mais vous devriez faire un site comme ça je pourrais venir vous écouter. Et depuis 2005, il y en a combien de ces prédications?
Il y en a
à peu près mille. Et puis je regardais tout, comme il avait arrangé, mis les titres et tout, avec les dates, et je trouvais ça très beau, très très facile pour trouver. Et puis j'ai cliqué sur une prédication comme ça, mais vous savez quand on dit au hasard, voilà au hasard, le hasard. Il y a quelqu'un qui dit que le hasard c'est Dieu qui se promène avec des lunettes noires, qui se promène incognito. Et en fait j'ai cliqué sur la prédication du 18 novembre 2012, donc... On était à un an et demi du scandale qui est arrivé chez nous et qui a créé cette division. Et puis, je m'attendais à écouter une de mes vieilles prédications. Et puis non, j'entends la voix de mon Dominique Boisset. Dominique Boisset, c'est le plus ancien dans notre communauté puisque c'est lui le premier qui nous a rejoint. Et donc, j'écoute qu'est-ce qu'il a à dire. Et puis, il nous parle. Vous irez écouter vous-même. Vous n'avez qu'à cliquer sur le 18 novembre 2012. Et vous allez voir, il nous raconte un songe qu'il a eu. Et c'est marrant parce qu'il dit le songe, et puis il explique ce qu'il comprend du songe. Mais en fait, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Un peu comme l'apôtre Pierre, quand il a prophétisé le jour de la Pentecôte, en disant que cette promesse était pour tous ceux qui étaient au loin jusqu'aux extrémités de la terre. Puis en fait, il n'avait pas compris ce qu'il était en train de dire. La preuve, c'est que quand il se trouve chez Corneille, ben, il est tout étonné de voir que des non-juifs se convertissent. Donc l'apôtre Pierre, tout spirituel qu'il était, ne comprenait pas forcément ce qu'il disait quand il était dans l'esprit de prophétie. Et notre frère Boisset, la même chose, il a eu un songe, mais tellement il était... impensable à cette époque-là que quelques frères et sœurs nous fassent des problèmes et créent une division, qu'il l'a interprété d'une façon différente. Alors je vais vous raconter ce songe, et puis vous allez voir la portée que ça a, c'est quelque chose d'inouï. Premièrement, il voit qu'on est en train de s'activer pour déménager. Ça c'est quand même chose extraordinaire, et qu'on est content de déménager. Moi c'est un jour, on m'avait dit... tu vas être content de quitter le château. Je me dis, t'es ma boule. Je me rappelle, c'est Marc, la première fois, on en avait parlé sur ta terre, sur votre terrasse, là, où l'air est. Et quand l'idée est venue, j'ai pensé, c'est une folie. Je peux pas faire ça. C'est comme si je baissais les bras. Il n'en est pas question. Puis, avec Michou, on a réfléchi, on a prié, on a pensé, on a compris ce que le Seigneur voulait nous dire. Et il voyait donc, dans cette vision en 2012, donc un an et demi avant le problème, il voyait qu'on était en train de s'activer à déménager et que on choisissait certaines choses qui nous plaisaient puis on en laissait d'autres qui nous servaient à rien. Alors c'est quand même bizarre. Ensuite il dit que ce déménagement se ferait en plusieurs étapes et c'est vraiment arrivé. Les premiers qui sont partis c'est les navets. Ceux qui sont partis ensuite c'est les et ceux qui sont partis au dernier c'est Janton, Boisset et Dominique. Je crois que c'est tout, les derniers. Et Royer et Olivier aussi. Voilà, donc ça s'est passé en plusieurs étapes, comme il le dit dans le songe. Et puis, il dit qu'il se réveille à ce moment-là. Vous écouterez, vous irez écouter, c'est formidable. Alors, il dit qu'il se réveille, puis qu'il réfléchit, ça veut dire quoi? Ah, ben ça va vouloir dire qu'il faut qu'on se prépare, qu'on mette les choses spirituelles de valeur de côté, parce que l'enlèvement va avoir lieu. Et puis, bien sûr, parce qu'il pouvait pas imaginer autre chose, il pouvait pas imaginer qu'on allait déménager. Et puis, au bout d'un moment, il se rendort, et le songe continue. Il se retrouve de nouveau, là, dans ce songe, et puis il voit que on est sorti par la porte arrière, vous rappelez, la cuisine. On est sorti par la porte arrière et on est tout un groupe, on est content, on est prêt à partir, puis on se retourne, puis on voit qu'il y en a plusieurs qui sont encore dans la cuisine, qui restent, qui sont dans le château. C'est quand même fort, ça. C'est quand même extraordinaire. Alors, et qu'il y a quelqu'un parmi eux qui leur dit, mais il faut pas, on peut plus rester, on peut plus rester, on peut plus rester. Alors, ils s'en vont aussi, finalement, ils déménagent aussi. Et Dominique voit dans ce songe qu'en fait, tout le monde va être content de ça. C'est-à-dire que même ceux qui ont causé le problème et qui sont à l'heure actuelle dans le château vont être contents finalement quand ça sera fini pour eux parce qu'ils vont se retrouver tranquilles en famille. Enfin, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, ils seront heureux que cette histoire se termine. C'est pas beau ce songe? Moi, je trouve que c'est magnifique. Et Dominique, donc, ne pouvait pas imaginer ce qui est en train de nous arriver, mais Dieu le savait et il nous a averti un an et demi avant que nous allions déménager et que, en fait, tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Ce qu'il a vu, il a vu le 18 novembre 2012, c'est ce qui s'est passé et que nous étions contents de le faire. C'est ce qui s'est passé, on était vraiment contents de se tailler parce qu'on n'en pouvait plus là-bas dedans. Ensuite, que certains allaient rester, c'est le cas encore aujourd'hui. Et qu'ils finissent par déménager, c'est ce qui sera bientôt pour eux et ça sera très bien pour eux aussi. Vous voyez, dans 1 Pierre 4:17, il y a un texte qui nous avertit, qui nous dit « Le moment vient où Dieu jugera le monde, or il commencera son jugement par sa propre maison. » Et nous sommes de la maison du Seigneur, nous ne sommes pas les seuls, hein. Il y a d'autres églises aussi qui sont la maison de Dieu. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes les églises de Dieu qui se réclament de Jésus-Christ sont plus ou moins persécutées. Et nous avons été aussi jugés, persécutés, nous avons eu des problèmes, nous avons dû sortir du château parce que Dieu voulait nous mettre à part d'un esprit séducteur et persécuteur. Nous avons déménagé dans la joie et les dissidents sont restés, comme je vous le disais. Mais nous savons que en ce moment, les chrétiens de par le monde sont terriblement persécutés. En fait, il y a eu des enquêtes de fait et on sait que maintenant, c'est le peuple chrétien qui est le peuple le plus persécuté dans le monde. Et c'est le jugement de Dieu qui commence par la maison. Il y a un tri qui est en train de se faire, dans la maison de Dieu et c'est quelque chose de... Waouh, c'est lourd à porter, c'est dur, on en est tombé malade. Mais voilà, maintenant le Seigneur nous a tous relevés, on est content, on est heureux. Mais c'est difficile, c'est difficile. Dieu, dans son amour, nous a avertis de cela. Il nous a avertis le 18 novembre 2012, on n'a pas compris grand-chose. Mais maintenant, on comprend. Et en quelque sorte, c'est bien qu'on comprenne maintenant. Parce que sinon, on aurait toujours pu se dire, « Oh, on s'est laissé guider par un songe de Dominique, et puis c'était peut-être pas bien, etc. etc. » C'est-à-dire que les choses se sont faites à notre insu. Et maintenant, on comprend ce songe, ce qu'il voulait dire. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses avec équilibre. Donc, c'est en regardant comme ça ces archives que j'ai trouvées. Alors, je me suis dit, mais enfin, bon, il y a le jugement de Dieu qui commence par l'Église, puis ensuite Dieu va juger le monde. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas brillant, hein, vous avez vu... Poutine et Trump et toutes ces histoires, la Syrie et toutes ces choses, c'est pas joyeux, joyeux. Comment est-ce que Dieu va faire dans ce jugement? Parce que ça va être complexe. Ça peut pas être bon, toi t'es méchant, toi t'es gentil. Il y a toutes sortes de cas, il y a toutes sortes de cas. Et par exemple, nous ici, on est aussi dans l'Église de Jésus-Christ, on est habitué à être jugé, et jugé ça ne veut pas dire forcément condamné, mais par exemple ici-bas souvent, eh bien on est jugé quant à notre dignité, par exemple pour savoir si on est digne d'être baptisé, par exemple. Il faut bien un jugement, on parle avec la personne et puis on juge, on apprécie, on regarde, on voit si cette personne est sincère, si vraiment elle n'est pas dans une espèce de délire, et donc il y a un jugement qui se fait, ça ne veut pas dire une condamnation, mais c'est comme ça, et nous sommes aussi jugés quand nous sommes appelés à servir Dieu dans l'Église, quand quelqu'un vient puis qui dit, voilà, moi j'ai un ministère, oui, bon d'accord, faut le prouver, hein, donc c'est mis à l'épreuve, c'est jugé. Je parle avec un frère l'autre jour, j'ai dit, moi le meilleur moyen pour savoir si tu as un ministère, tu vas dans la rue, tu m'emmènes dans l'année une vingtaine de personnes à Jésus, là, mon frère, je te loue une salle et on ouvre une église, il n'y a pas de problème. Mais autrement, moi je te laisse pas prêcher, pourquoi est-ce que je te laisserais prêcher? T'es pas crédible, on te connaît pas. Vous voyez, donc on est, il y a des jugements qui ne sont pas forcément des condamnations, mais des appréciations. Et ça, c'est normal dans l'Église déjà. Alors vous pensez, dans le niveau supérieur spirituel de Dieu, il y a des jugements qui ont lieu continuellement tous les jours. La Bible dit que à notre mort, notre esprit sera affecté dans un état de bonheur ou dans un état de misère. C'est un jugement, un premier jugement. On va lire dans, si vous voulez bien, dans 2 Pierre 4, 6. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est dans 2 Pierre 4, 6, mais je vais vous le lire dans la parole vivante. 2 Pierre 4, 6, j'aime bien la version d'Alfred Kuhn. 2. Non, c'est pas ça. C'est dans celle-là. 2 Pierre. 2 Pierre 4, 6, où il se cache là. J'ai mis des petits bouts de papier. Il dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Comment interprétez-vous cette chose? Nous, à notre mort, nous sommes jugés et nous sommes placés d'un côté ou d'un autre dans le séjour des morts qui est divisé en deux parties. Les morts sont jugés immédiatement à leur mort et il y a un registre qui permet ce premier jugement. On parle toujours du jugement dernier, ça veut bien dire qu'il y a un jugement avant le jugement dernier. Et le premier jugement, eh bien, il y a un registre et ce registre est en nous-mêmes. Ce registre est en nous-mêmes. Paul nous enseigne que nous sommes nous-mêmes une archive de notre propre vie. On trouve ça dans Romains, là je le prends dans la parole vivante, dans Romains chapitre 2, 14, 16. Il dit, les peuples païens qui n'ont pas la loi, en observant souvent naturellement les préceptes, ils trouvent en eux-mêmes ce qu'il convient de faire, et obéissent aux impératifs de leur sens moral. Ils démontrent par leur comportement que l'essence de la loi est gravée dans leur cœur. Leur conscience et leur discernement moral en témoignent. De là, ces raisonnements par lesquels on se cherche des excuses, ces pensées qui tantôt accusent, tantôt absolvent, de là aussi ces jugements qui approuvent ou condamnent la conduite des autres. Vous voyez qu'on a en nous-mêmes tout ça, qu'on soit chrétien, pas chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit n'importe quoi. On a tous cette loi en nous-mêmes, et donc on a un registre au sujet de ce que nous avons fait. Si vous voulez, un petit peu comme un ordinateur, il y a des règles pour le faire marcher, mais il y a des choses qui sont dedans, et vous ne pouvez pas les enlever une fois que vous avez mis ça. Même si vous foutez à la poubelle, on peut toujours faire ressortir les choses. C'est gravé, c'est en nous. Donc on a nous-mêmes des archives de notre propre vie. Et c'est ça qui sert, lorsqu'on meurt, les archives sont visionner, c'est très rapide, hein. Pour Dieu c'est plus rapide encore qu'avec un ordinateur, et c'est tu es mis d'un côté ou tu es mis de l'autre. Vous voyez, les gens en Christ ne passent pas en jugement, Jésus le dit clairement plusieurs fois, celui qui croit en moi ne viendra pas en jugement. 2, les gens qui connaissaient la loi de Moïse sont jugés par cette loi, c'est parfaitement juste. Et 3, ceux qui ne connaissent rien, ils sont jugés d'après ce registre interne. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés, mais ils sont jugés d'après ce registre interne. De toute façon, pour tous, juifs, chrétiens ou païens, l'histoire complète de tout ce que nous avons fait est enregistrée dans notre corps et dans notre intellect. C'est dedans. Et tout est écrit sur les tablettes de notre conscience, et ce document ne peut pas mentir, non. Même si on ouvre notre bouche pour dire non, c'était pas tout à fait. Tout est inscrit, et c'est clair, et c'est net, et les motivations, et tout est dedans, c'est très net. À notre mort, si nous sommes chrétiens, il n'y a rien de mal sur ces tablettes. Vous allez me dire, non, il n'y a rien de mal, parce que c'est à ça que sert le sang de Christ. Jésus a versé son sang sur la croix pour nous laver de tout péché. C'est-à-dire que tout ce que le mal que nous avons fait est effacé Et si nous refaisons quelque chose de mal en cours de route et que nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que c'est effacé à mesure, mais vraiment effacé. Et lorsque nous mourons, eh bien, ces archives sortent devant Dieu et il dit, ok, c'est net, c'est bon. Et nous entrons directement dans ce qu'on appelle le Saint d'Abraham. C'est pas encore le paradis, mais c'est le Saint d'Abraham. Vous voyez, vous me suivez?
Oui.
C'est net, c'est clair? Voilà, ça c'est pour les chrétiens. Et nous, nous sommes amenés, donc dans le Saint d'Abraham, un lieu où nous attendons notre résurrection. Notre résurrection, à notre résurrection, notre corps qui aura disparu, soit dans la poussière, soit dans la fumée, soit dans l'eau, ou je ne sais quoi, sera rendu à notre esprit d'une façon parfaite, glorieuse, et c'est ce que la Bible appelle la première résurrection. Ça veut bien dire qu'il y en a plusieurs. Mais la première résurrection, c'est cette résurrection-là. Ceux dont les tablettes internes n'ont pas été effacées par le sang de Jésus seront jugés et placés dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment. C'est très différent pour eux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette première résurrection ? La première résurrection, c'est la résurrection des justes, de ceux qui, après leur mort, auront été placés dans le sein d'Abraham, parce que les tablettes de leur conscience ont été lavées dans le sang de Jésus-Christ, et là, à la résurrection, leur esprit sera joint à leur corps glorifié, on n'aura plus notre corps avec toutes ces tares, toutes ces maladies et tous ces machins, ça sera parfait, réjouissons-nous de ça, parce que, voilà, c'est des fois, parfois, très lourd. Et la Bible nous dit que ceux-là, qui passeront par la première résurrection, ils reviendront sur la terre pour régner pendant 1000 ans avec Jésus. Ça, c'est très clair, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur son front ni sur la main. Ça, c'est ceux qui sont... Vous connaissez ceux-là ? C'est ceux qui passent par la grande tribulation. C'est-à-dire que l'épouse est enlevée, il y a des chrétiens qui ne marchent pas bien avec Dieu, ils restent dans la grande tribulation, mais ceux-là, ils passent aussi par la première résurrection. Écoutez bien, les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez, ceux qui jugent, qui c'est qui juge là? Tous les morts qui sont dans le sein d'Abraham, ceux qui avaient vécu depuis Adam jusqu'à l'enlèvement de l'épouse de Christ, tous ceux-là sont jugés, et c'est pourquoi il est écrit « Je vis aussi ceux qui avaient été décapités », et on comprend par ce mot « aussi » que c'est pas seulement ceux qui ont vécu depuis Adam jusqu'à l'enlèvement, mais aussi ceux qui ont passé par la grande tribulation. Ceux qui ont passé par la grande tribulation, il y aura des héros parmi eux. Bon, ils n'auront pas été prêts sur le moment, mais ils auront une conduite exemplaire pendant la grande tribulation, ils n'auront pas accepté de pactiser avec le diable, donc eux aussi participeront, parce qu'il y a le mot « aussi ». S'il n'y avait pas le mot « aussi », on pourrait douter. Mais il y a le mot « aussi », ça veut dire qu'il y a bien deux groupes. Vous me suivez, vous comprenez ça, mes frères et sœurs. Sinon, on va vous réécouter la prédication, puis vous comprendrez. Il y a donc le jugement de deux sortes de fidèles. Un, ceux qui ont vécu depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, et aussi ceux de la grande tribulation, et ceux qui régneront, c'est ceux-là qui régneront pendant 1000 ans avec Jésus sur la terre. Et ça, c'est la première résurrection. Et Jésus dit là, heureux ceux qui n'auront pas à cette première résurrection. Les autres ne ressusciteront qu'après les 1000 ans de règne de Jésus, c'est-à-dire ils seront encore dans le séjour des morts, du mauvais côté, avec les tourments, et ils ressusciteront pour se retrouver devant le grand trône blanc qu'on trouve dans Apocalypse 20, verset 11, où il est dit là que tout le monde, tous ces gens-là sont rassemblés devant Dieu et sont jugés. Maintenant, ceux qui seront passés par la première résurrection ne seront pas jugés pour déterminer s'ils sont sauvés ou pas. Ce jugement a déjà eu lieu à la croix. Quand Jésus-Christ est mort, il a porté nos péchés, il était jugé à notre place. Donc, il n'y a plus de jugement sur nous. Nos tablettes, nos archives sont nettes, sont propres. Donc, nous ne nous trouverons jamais au jugement dernier. On n'y sera pas. On aura été jugé avant, en Christ. Christ a été jugé et condamné à notre place. Comme dit Jésus, celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Vous voyez ? Donc, le jugement dans Apocalypse 24, quand il est question de ceux de la grande tribulation, et puis des chrétiens qui étaient dans le sein d'Abraham, qui participent à la première résurrection, ceux-là, ils ne sont pas jugés en vue de savoir s'ils sont sauvés ou pas, mais en vue de savoir quel niveau de récompense ils vont avoir. Ces récompenses seront plus ou moins glorieuses selon le degré de spiritualité de chacun. Je trouve que ça serait pas tout à fait normal que des hommes et des femmes qui ont vécu des choses dans l'obéissance, la soumission, reçoivent la même chose que des chrétiens qui sont un peu volés. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal, il y a un jugement juste. Maintenant, pourquoi Dieu va-t-il juger les morts qui attendent dans le lieu de tourment? On pourrait se dire, ils sont dans le lieu de tourment, c'est qu'ils sont foutus. Non, ils jugent encore. Il y a un premier jugement. À partir du moment où quelqu'un meurt, s'il n'est pas trouvé propre, si les tablettes, si les archives internes ne sont pas correctes, s'il n'y a pas le sang qui a nettoyé cela, eh bien, ils sont placés dans le mauvais côté du séjour des morts. Mais après, ils passent en jugement encore. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a encore un espoir de salut pour eux. Ça y est, vous comprenez ? Dans Apocalypse 20:12, il est question du jugement de ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection et qui n'ont pas régné avec Christ pendant 1000 ans sur terre. Ils sont jugés d'après ce qui est écrit dans des livres. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 20:12. Il y a des livres qui sont ouverts, qui contiennent toutes les actions que ces gens ont faites. Et puis il y a un livre qui est à part, qui est le livre de vie, dans lequel se trouvent les noms de ceux qui sont sauvés. Les noms de ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas dedans. Voyons ce que sont ces premiers livres qui sont ouverts. Ces gens sont eux-mêmes leurs propres livres. Je vous l'ai dit. Dans ces livres sont consignées les actions de tous ces gens qui ont vécu sans foi ni loi divine sur terre. Et parmi eux, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des non-juifs, il y a tout ce que vous voulez, mais des gens qui ont vécu sans foi ni loi, c'est-à-dire c'est des chrétiens de pacotille, ou je ne sais pas, enfin bon. Et ils ont été jugés bons pour être mis dans le lieu de tourment, et ils attendent le jugement dernier. Donc, un, il y a un livre qui est tenu dans le ciel, dans ce livre céleste, tous leurs actes, tous les actes, toutes les paroles, toutes les pensées de chacun sont écrites, et ça c'est écrit par les anges. Et puis il y a cet autre livre qui est en nous-mêmes. Ces deux livres sont comparés, oui c'est juste, la comptabilité est bonne, la balance est juste. Puis il y a un autre livre qui est ouvert, souvenez-vous qu'il y a des livres et un livre, et parmi ces livres il y a un livre céleste et des livres terrestres. Le livre terrestre est écrit par l'Église. Vous allez me dire, ah bon, mais bien sûr. Parmi ces livres qui sont ouverts au jour du jugement dernier, il y a des livres qui sont écrits par l'Église. Ce sont les registres qui contiennent les noms de tous ceux pour lesquels nous nous faisons baptiser conformément à 1 Corinthiens 15, 29. Parce que quand on se fait baptiser pour quelqu'un qui est décédé, et que cette personne décédée dans le séjour des morts entend prêcher l'évangile, elle le reçoit. Ce que nous faisons sur la terre en nous faisant baptiser pour elle est compté à justice pour cette personne. Et ses tablettes, ses archives sont nettoyées. Donc ce que nous écrivons, ce que Michou et tous les autres ont fait, Dominique, compagnie, de faire tous ces registres, toutes ces choses qu'on met sur les logiciels qu'Éric Jacques a créés, eh bien tout ça, ça paraîtra dans le royaume de Dieu. Cet acte que nous faisons en tant que leur substitut leur est compté à justice, mais les morts pour lesquels nous nous faisons baptiser n'accepteront pas forcément l'évangile qui leur est prêché dans le séjour des morts. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 4:6, que l'évangile est aussi prêché aux morts. Mais tous ne le reçoivent pas. Alors le jugement sert à ça. Ce jugement au grand trône blanc, ce jugement dernier, sert à ça. À savoir, dans le séjour des morts du mauvais côté, là où sont les gens, les âmes en peine, dans les tourments, ces âmes-là vont paraître devant un trône pour savoir qui a reçu l'évangile dans le séjour des morts. C'est fort. Ça sert uniquement à ça. Un, les morts sont jugés d'après leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, puis les livres terrestres, nos registres, quant au baptême à la place des morts, sont ouverts, et le fait que nous soyons faits baptiser à leur place, ça leur est compté à justice. C'est-à-dire que c'est mis sur leur compte. Quand vous prenez quelque chose et que vous le mettez sur le compte d'un autre, ça appartient à la personne sur le compte duquel on a mis la chose. Vous êtes d'accord? Quand vous vous faites baptiser pour un ancêtre, à vous, c'est ce baptême que vous faites, il est mis sur le compte, sur les tablettes de la personne pour laquelle vous vous faites baptiser. Et au jour du jugement, ça paraîtra. Et si lui, cette personne, a reçu l'évangile quand il est prêché dans le séjour des morts, eh bien, il est aussi net et aussi pur que s'il avait vécu toute sa vie pur comme un saint. Et me dire, c'est pas juste? Si, c'est juste. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas la justice des hommes. Dieu fait ce qu'il veut, il a le droit. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis, le troisième livre est ouvert, c'est-à-dire le livre de vie, qui est un livre céleste. Ça, personne peut discuter là-dessus non plus. Et si leur nom est écrit dedans, ils sont sauvés, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non-juifs, n'importe quoi, ils sont sauvés. Même si vous n'avez pas été baptisé pour eux, ils sont sauvés. Il suffit que leur nom soit dans le livre de vie. On va me dire, alors à quoi ça sert de se faire baptiser pour eux? Pour qu'ils aient plus sur leur compte. Quand quelqu'un a plus sur son compte, il lui est confié aussi davantage dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Sinon, si le nom n'est pas écrit, ils seront condamnés, qu'ils soient juifs, qu'ils ne soient pas juifs, qu'ils soient n'importe quoi. Et ça, c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Pour ceux qui sont au bénéfice de la première résurrection, vous avez vu, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Vous êtes mort une fois, mais il n'y aura pas de seconde mort. Les gens qui ne sont pas en ordre, ils sont morts là sur la terre, mais ils mourront encore une autre fois, c'est-à-dire qu'ils seront anéantis, terminés. Et il faut que ça soit comme ça, parce que chacun de nous, il faut que ça soit su, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit compris, parce que chacun de nous va mourir un jour et sera jugé une première fois pour voir si l'archive interne de votre vie terrestre a été lavée par le sang de Jésus ou pas. Alors qu'est-ce qui fait que votre archive interne est lavée dans le sang de Jésus? Ben c'est que, un, vous croyez au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, n'est-ce pas la vérité? Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Oui. Et puis deux, que vous vous soyez forcé de vivre selon ses préceptes, c'est quand même la moindre des choses. On n'y arrive pas tous, tout le temps, tous les jours, mais que celui qui a jamais péché me jette la première pierre. D'accord? Donc nous pouvons avoir cette assurance que Jésus est celui qui nous a lavé, si nous croyons en lui. Et puis, Jésus le dit au sujet des Juifs, qui n'auront pas connu Jésus, c'est-à-dire ceux qui seront nés avant que Jésus soit né sur la terre. La Bible dit, c'est pas le Père qui va les juger, mais c'est le Fils. Jésus a dit ça à son époque, quand il était sur la terre, il l'a dit à des Juifs. On peut lire dans Jean 5. Pas tout mélanger, tous les jugements ne sont pas pareils. Et c'est bon de savoir comment ça se passe, parce que sinon on est léger et superficiel. Jean 5, 22, 30. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Donc c'est Jésus qui va juger les Juifs. Comment le jugement des Juifs aura lieu? La Bible nous dit que Jésus va se faire aider par les 12. Par les 12 apôtres. Ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Vous trouvez ça dans Matthieu 18, 28. Vous pouvez le lire. Et Matthieu et Luc 22, 28, 30. Vous pourrez lire aussi. Jésus n'est pas tout seul à juger. Non. Il y a les 12 avec lui. Jésus et les 12 jugeront aussi le peuple néphite et l'amanite. Ça en trouve dans le livre de Mormon 3, 18, 19. Et 1 Néphite 12, 9, 10. Tout est bien écrit, il suffit simplement de lire les textes appropriés. Alors, comment notre fidélité pendant notre vie terrestre influencera-t-elle notre vie éternelle? Puisqu'il est question de récompense. Ben, il y aura 3 niveaux de gloire. L'apôtre Paul dit qu'il y aura un niveau de gloire tel que la gloire du soleil, la gloire de la lune, un petit peu moins, la gloire des étoiles, un peu moins brillant. J'ai déjà prêché là-dessus en prenant 1 Corinthiens 15, 41, 42. Vous vous rappelez, c'est pas, il ne dit pas ça n'importe comment, il dit 15, 42. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Et c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. On ne ressuscitera pas tous au même niveau de gloire. Ça ne veut pas dire, voilà, j'aurai une plus grande lumière qui jaillira de moi. Ça veut dire, j'aurai plus de responsabilités que d'autres, ou j'aurai moins de responsabilités que d'autres, suivant comment je me serai comporté sur la terre. C'est juste. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de s'amasser un trésor pour le ciel. C'est ça que Jésus nous dit. Amassez-vous un trésor pour le ciel. Ce que vous faites, pratiquement ce que vous faites, il y a des comptes qui sont tenus et vous aurez des récompenses qui seront en correspondance. C'est juste, non? Dieu est juste. Parce que tous les membres de l'Église hériteront de différents royaumes parce qu'ils ne sont pas tous aussi fidèles, pas tous aussi vaillants, pas tous aussi honnêtes dans leur obéissance à Jésus-Christ. C'est normal. Nous devons donc nous préparer pour ce jugement. Je répète pas le jugement dernier, mais le jugement pour les récompenses. Parce qu'en vérité, chaque jour, c'est un jugement. Puisque chaque jour, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est écrit. Et ça servira pour des récompenses. Nos paroles, nos pensées, nos actes sont en accord avec quel degré de gloire? Est-ce que ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, mettons, depuis ce matin, ce que tu as fait, est-ce que ça s'accorde avec quel niveau de gloire? Soleil, lune, étoile, très bien, vous savez comme ils font, 2, 1 à 10. Tu le sais, on le sait très bien ce qu'on fait, si c'est très très bien, ou si c'est passable, on le sait. Degré du soleil, de la lune ou des étoiles? Vous voyez? Nous autres, qui sommes disciples de Jésus, qui sommes des croyants, nous avons foi en Jésus-Christ. Nous avons foi et notre foi, elle se manifeste dans nos actes. Sinon, notre foi, elle est vaine. Ça ne sert à rien de dire « j'ai la foi en Jésus ». Et la foi, ça ne sert pas qu'à guérir les malades ou à avoir du pognon ou... Oh, j'ai semé, donc j'ai récolté, j'ai la foi. Mais non, c'est pas ça. Pas seulement ça. Et nos actes détermineront de quelle demeure nous hériterons. Souvenez-vous, Jean 14, 2, Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. La maison du Père est immense, mais il y a plusieurs demeures. quelle sorte de demeure vous voulez avoir. Quand vous l'aurez, vous ne pourrez pas changer. C'est maintenant qu'on change. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous apportez un bibelot dans la maison. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous arrangez les rideaux dans la maison. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, c'est le carrelage qui est fait ou quelque chose qui fait que la maison sera plus ou moins glorieuse. Là où vous passerez votre éternité, ça sera plus ou moins glorieux. Les responsabilités que vous aurez dans le royaume de Dieu seront plus ou moins glorieuses, plus ou moins importantes. Certains recevront de pouvoir gérer des quartiers ou des villages ou des villes ou des pays, voire des mondes. Mais ça ne sera pas n'importe comment que cette distribution sera faite. Elle sera faite par rapport aux actes de foi que nous aurons posés sur la terre, aux actes de bonté, aux actes d'amour, aux actes de fidélité, d'obéissance à Jésus. Alors l'évangile, c'est vrai, tout le monde dit c'est la bonne nouvelle pour celui qui est en Jésus-Christ, et pour l'autre, c'est une odeur de mort. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais l'évangile est aussi, j'aime bien ce mot « aussi », la loi du royaume céleste, parce que dans l'évangile, vous trouvez les lois du royaume céleste. Beaucoup de gens disent, mais on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Il y a des lois auxquelles on doit se soumettre. Et si on ne se soumet pas à ces lois, on sera sauvé, mais comme au travers du feu, c'est-à-dire il ne restera pas grand-chose. On arrivera au ciel, les mains dans les poches, en sifflotant, puis bon. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui disent, oh, moi, pourvu que j'ai un serpentin au fond du ciel, moi, ça me suffit pourvu que je sois au ciel. Je suis désolé, quand ils arriveront, puis qu'ils vont passer leur éternité sur un serpentin, c'est une façon de parler, hein. Mais ils vont regretter, hein. Ils vont regretter. Et vous vous souvenez de cette déclaration de Jésus? Si un serviteur de Dieu est trouvé infidèle au jour où Jésus paraîtra, il sera puni sévèrement. C'est-à-dire que, il y a des chrétiens, quand ils ressusciteront, avant d'aller au paradis, ils seront d'abord punis. Et Jésus dit, même pour certains, il leur fera partager le sort des infidèles, c'est-à-dire c'est dehors. Des serviteurs de Dieu, des gens qui auront servi Dieu, qui auront fait profession de servir Dieu. Mais leurs intentions, leurs motivations, ce n'était pas pur et Dieu le sait. Luc 12, 46. Et Jésus punira celui qui connaît la volonté de Dieu, mais qui n'a rien préparé, ni rien fait pour s'y conformer, Jésus dit, celui-là sera battu d'un grand nombre de coups. Luc 12, 47, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé, mais il va se prendre une schlaguée, comme on dit en Suisse, en arrivant au ciel. Ça commence bien le paradis. Mais il faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Je vous ai dit, on va parler des jugements. Le jugement commence par la maison de Dieu. On a vu, ça nous est tombé dessus, on a vu comment Dieu a fait le tri, comment Dieu nous a séparés, on a vu. Mais maintenant, c'est sans appel, on ne peut pas discuter des choses comme ça. On est obligé de suivre la mouvance de l'esprit. Et quand on sera mort, ce sera la même chose. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir se faufiler. Il y en a qui arriveront à se faufiler juste dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus va arriver, il va dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu n'as pas la robe appropriée? Dehors! Il le foutra dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est écrit ou pas? Donc il y a des marioles qui arriveront même à s'introduire dans la salle des noces du royaume de Dieu. Et là, juste au moment de sa sortie, elles sont foutues dehors. Ah bon? Mais oui, c'est ça. L'âme humaine est terrible, terrible. Mais Dieu est bien plus terrible encore. Quant à celui qui n'aura pas connu, c'est toujours Jésus qui dit, quant à celui qui n'aura pas connu la volonté de Dieu et qui aura fait des choses dignes de punition, sera battu de peu de coups. Donc il y a des gens... Pardon, mais il y a des gens qui sont dans les églises, ils sont là, et puis on leur parle pas de qu'est-ce que Dieu veut, à part, il faut que vous donniez votre dîme, il faut que vous soyez baptisés comme ça, il faut que vous soyez gentils, que vous payiez vos impôts, que vous veniez aux réunions, qu'il faut arrêter de fumer, il faut plus vous saouler la gueule, à part ça, ils savent rien de ce que c'est que la volonté de Dieu. À ceux-là, ils recevront peu de coups. Pourquoi ils recevront des coups? Parce qu'ils avaient qu'à chercher quand même un peu la volonté de Dieu. Non, ils étaient flemmards, ils posaient leur derrière dans l'église, puis ils écoutaient ce que le bon pasteur disait, puis ils pensaient que ça suffisait. Donc, tac, ils auront aussi des coups. C'est terrible! Mais ça nous met tous devant des responsabilités qui sont personnelles. Nos responsabilités sont personnelles, ce n'est pas des responsabilités de groupe. Jamais. Jésus dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Rappelez-vous les autres qui disaient, ouais Michel, avec tous ces messages, tu nous gaves. Ils ont beaucoup reçu, il leur sera beaucoup demandé. Et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Luc 12, 48. Donc vous voyez que on n'est pas tous au même degré, même une fois sauvés. Alors, il y a des gens qui ont découvert il y a une dizaine d'années que avoir la foi pour le salut, c'est une chose, mais il faut aussi avoir la foi pour l'enlèvement. Ça, c'est bien, mais il faut aussi avoir la foi pour les récompenses. Et la foi est agissante, si elle n'est pas agissante, c'est pas la foi. Donc, c'est beaucoup plus... Moi, je trouve que ça me responsabilise et ça m'honore. Pas vous. Moi, je trouve que c'est formidable de pouvoir dire, je suis en train de ce que je fais ici, ben, je le récolterai là-haut, je suis en train d'amasser quelque chose là-haut. Ça a une valeur spirituelle, même les trucs matériels que je fais, ça a une valeur spirituelle aux yeux de Dieu. Vous voyez, je le répète, il y a des sauvés qui, en arrivant dans le royaume de Dieu, recevront des coups, des punitions, il y en a même qui seront jetés dehors, Matthieu 22, 11. Alors je prêche ces choses, parce que vu la situation mondiale, il se pourrait bien que le jour des jugements soit plus proche qu'on pense. Jésus a dit, je vais juger le monde, mais je commencerai par juger l'Église. Et l'Église, elle passe par le crible en ce moment. Tous les chrétiens évangéliques sont massacrés dans les pays islamiques où il y a des falas, là, des extrémistes, ils sont massacrés, chassés, pourchassés, affamés. Mais même l'Église catholique passe par des tribulations terribles avec toutes ces histoires de pédophilie et toutes ces horreurs. Il y a un jugement qui tombe sur cette Église, il y a un jugement qui tombe aussi sur nous. On y a tous passé. Alors qu'est-ce que c'est l'étape suivante? Jésus dit, je jugerai le monde, mais le jugement commencera par mon Église, par ma maison. Ben, le jugement est tombé sur l'Église, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Le jugement sur le monde. Et mes enfants, j'ai l'impression que c'est bien parti, là. J'ai l'impression que c'est bien parti. C'est pourquoi je vous enseigne ces choses. Être prêt ne consiste pas à savoir la date du retour de Jésus, c'est pas ça. Mais être prêt, c'est se préparer à être ce qu'on doit être, ce que Dieu attend que nous soyons. Et je voudrais terminer ce matin en faisant une lecture dans le livre de Mormon, dans le livre d'Alma, au chapitre 41, et je terminerai là-dessus, Alma 41, verset 2. « Je te dis, mon fils, que le plan de restauration est requis par la justice de Dieu, car il est requis que tout soit rendu à son ordre propre. Voici, il est requis et juste, selon le pouvoir et la résurrection du Christ, que l'âme de l'homme soit rendue à son corps, et que chaque partie du corps soit rendue à elle-même. Et il est requis par la justice de Dieu que les hommes soient jugés selon leurs œuvres, et si leurs œuvres ont été bonnes dans cette vie, et que les désirs de leur cœur ont été bons, qu'ils soient rendus aussi au dernier jour à ce qui est bon. Et si leurs œuvres sont mauvaises, elles leur seront rendues pour le mal. C'est pourquoi tout sera rendu à son ordre propre, chaque chose à sa forme naturelle. La mortalité ressuscitée à l'immortalité, la corruption à l'incorruptibilité, ressuscitée pour le bonheur sans fin, pour hériter le royaume de Dieu, ou pour la misère sans fin, pour hériter le royaume du diable, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. L'un ressuscité pour le bonheur, selon son désir de bonheur, pour le bien, selon son désir de bien, et l'autre pour le mal, selon son désir de mal. Car comme il a désiré faire le mal tout le jour, de même sa récompense sera le mal lorsque viendra la nuit. Et ainsi en est-il de l'autre côté. S'il s'est repenti de ses péchés et a désiré la justice jusqu'à la fin de ses jours, de même sa récompense sera juste. Qu'est-ce que c'est ? Il y a encore deux versets. Ce sont ceux qui sont rachetés par le Seigneur, oui. Ce sont ceux qui sont sortis, qui sont délivrés de la nuit de ténèbres sans fin, et ainsi, ils se tiennent debout ou tombent. Car voici, ils sont leurs propres juges, que ce soit pour faire le bien ou pour faire le mal. Or, les décrets de Dieu sont inaltérables, c'est pourquoi le chemin est préparé pour que quiconque le veut puisse y marcher et être sauvé. Moi, je trouve que c'est très bien expliqué là. J'aurais pu dire que ça aurait suffi. C'est pas simplement croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça, c'est trop facile. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Et le bien et le mal font partie de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur les tablettes de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans les archives internes de ta vie? Est-ce que tout est propre, lavé dans le sang de Jésus? Si oui, prends garde, parce que celui qui est debout, il faut qu'il prenne garde de ne pas tomber. Fais gaffe, ça pourrait venir. Ça peut venir n'importe quand. Nous, on en a vu qui ont marché avec Dieu pendant des années, puis qui sont tombés dans des choses tellement bêtes, tellement grossières. Ça fait peur. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc, c'est notre responsabilité de nous tenir fermes nous-mêmes. Est-ce que c'est difficile? Non. Là, tout à l'heure, Olivier a chanté « Mon joug est facile ». Il y en a qui trouvent que c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'on sait que Jésus est avec nous. Parce qu'on sait qu'il tire de l'autre côté avec le joug. Parce qu'on sait qu'à la fin, le joug nous sera enlevé et qu'il y aura une récompense suivant le comportement qu'on aura eu. Quand je vois Eric, je me dis, il va avoir une récompense formidable pour avoir eu un comportement comme il a au milieu de la souffrance et des difficultés. Mélodie aura aussi une récompense extraordinaire pour avoir eu le comportement qu'elle a. Moi, avec tout ce que j'ai fait, l'Afrique et tous ces machins, j'aurai moins de récompense certainement. Parce que ça m'aura coûté moins cher. C'est vrai. C'est moi-même qui juge. Je me juge. C'est ce que le livre dit. J'ai tout à fait conscience de ça. Et vous? Où est-ce que vous en êtes avec votre conscience? Je vous embête. Je fais exprès. Parce que c'est important. Parce que c'est plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on disait « Jésus revient bientôt ». Ouais. Mais maintenant, il revient plus bientôt qu'il y a 10 ans. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, je te prie de garder nos cœurs dans ta paix. Nous puissions réfléchir à toutes ces choses avec le cœur paisible. Que ton esprit nous conduise, que des anges nous chuchotent des choses qui nous aident à faire le bien et à choisir le bien plutôt que le mal. Et je te remercie pour tout ça, Jésus. Amen.